Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
Antoine Robitaille.
Oui, Philippe Vincent.
Ouais, Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime.
Philippe Vincent Foisy.
Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
La rencontre.
Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question
ses décisions. Écoute, j'en revenais
plus. Rien dire, on peut plus rien
dire. On peut plus rien dire. Surtout dans la rencontre.
Robitaille, Foisy.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Que serait Cube Radio sans chicane politique, Philippe Vincent?
En fait, que serait le métier d'analyste politique?
C'est vrai.
c'est comme un peu presque notre pain quotidien, en fait. Mais les chicanes politiques, c'est comme si à l'époque, Antoine pourra en parler du Parti québécois, c'était eux qui avaient la panne des chicanes politiques au Québec. Et là, les conservateurs ont réussi en quelques années à devenir le parti canadien qui aime le plus se chicaner. C'est fascinant.
Le Parti libéral du Canada était pas pire aussi sous la guerre Chrétien-Martin.
Ouais. Oui, mais ça, on dirait que c'était plus une guerre d'ego qu'une guerre d'idéologie.
T'as raison.
Ouais. La chicane conservatrice, elle est vraiment fascinante parce que c'est une grosse chicane de valeurs. Et la pandémie a comme mis de la lumière là-dessus, a mis une loupe et a fait en sorte que le papier sec a pris en feu. Et là, on est vraiment dans une crise politique en Alberta assez particulière. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Jason Kenney a eu un vote de confiance de ses militants, qu'il a gagné à 51,4% et donc il a décidé de démissionner comme chef de son parti. On va voir dans les prochains jours s'il va pouvoir rester comme premier ministre, si même il pourrait se représenter à sa propre succession pour dire aux membres, regardez, quand vous me comparez à rien, je suis peut-être pas le meilleur, mais quand vous me comparez aux autres possibles candidats, je le suis le meilleur et je suis meilleur pour le parti et pour la province. Donc, on est vraiment dans une position assez particulière. Il faut comprendre que quand au Québec, au cours des derniers mois, on critiquait le gouvernement pour sa piètre gestion de la pandémie, c'était parce qu'ici, on n'en faisait pas assez. Alors qu'en Alberta, quand il était critiqué pour sa piètre gestion de la pandémie, c'est parce qu'on disait qu'il en faisait trop. Et le problème d'Alberta, ça a été de faire rien. Oups, à un moment donné, les hôpitaux débordaient, le monde mourait trop. On mettait des mesures draconiennes. Et là, c'était le arrête-recule constant qui a fait en sorte que la transmission politique au sein de son propre parti a un petit peu sauté. Et il faut transposer ça à ce qui se passe au Parti conservateur actuel, là, parce que si vous y pensez que Jason Kenney, qui était un des héros de la droite canadienne, a été conspué par les militants trop radicaux de son parti, imaginez ce que ça va donner au fédéral si un Jean Charest devait gagner cette élection.
Antoine?
Ben, il y a une radicalisation de la droite un peu partout en Amérique du Nord, puis ça date de Trump. Je pense l'arrivée de Trump, puis son style et aussi des médias sociaux. Et puis comme l'a bien dit Philippe Vincent, c'est la pandémie qui a comme je dirais mis le feu à ces idées-là. Ça accentue encore plus l'idée de en anglais on dit rabbit hole, hein? C'est-à-dire des gens qui se radicalisent dans un trou là, t'sais. Ils sont dans un, on parle de chambre d'écho aussi, et c'est ça qui arrive, je pense, à la droite canadienne qui finalement fait comme la droite américaine, hein. C'est les mêmes,
ils sont
socialisés dans les mêmes endroits. Alors,
qui a le pouvoir là-dedans? Les crinqués conservateurs, les conservateurs modérés, qui s'en sort gagnant?
Ben, en bout de ligne, les crinqués radicaux militants sont plus forts, plus mobilisés, plus motivés. Et je me souviens d'un bloquiste qui me disait à l'époque où Martine Ouellet avait pris la tête du parti, c'est qui reste dans le parti, là? Qui reste au sein du Bloc québécois quand ça va pas bien, là? C'est ceux et celles qui y croient en maudit, puis ceux et celles qui veulent que ça bouge en maudit. Puis c'est ça le défi d'un Jean Charest, par exemple. Tu sais, les modérer, là, de dire à quelqu'un, aujourd'hui, lève-toi, va acheter une carte de membre, implique-toi, mobilise-toi, dans le but de quoi? Dans le but d'avoir un gouvernement à peu près au centre. C'est pas mal moins motivant que de dire, nous, en ce moment, t'es en train de perdre ton pays, de perdre tes libertés, de perdre ta vie. On est en train de te contrôler, de vouloir te surveiller. Puis si tu donnes pas 5$ puis tu deviens pas membre, ça va aller de mal en pis. Et lequel des deux est le plus motivant? Ben, c'est sûr. Fait que c'est sûr qu'en crinquant les radicaux, on craint des militants pour des électeurs ou pour des politiciens. Ben, c'est payant parce qu'on va chercher ces votes-là. c'est un peu comme le cercle vicieux du clic là sur Internet. Mmh. Là, plus on en donne, ben plus les radicaux veulent être radicalisés. Puis à un moment donné, à force de mettre des bûches puis de l'huile dans ce feu-là, ben, on perd un peu le contrôle sur le brasier.
Ben, je t'écoute.
McLuhan disait que le médium et le message, là, puis c'est important là qu'on est dans une ère de médias sociaux, puis ça change tout. On pensait à l'arrivée de l'Internet. Je me souviens, j'ai fait nombre d'articles et d'entrevues avec des intellectuels qui essayaient de comprendre ce qui allait nous arriver avec cette nouvelle patente. Ben, on disait, ah, ça va être formidable. On va avoir accès à tous les savoirs, tu sais, au bout des doigts. Mais on a accès aux niaiseries aussi.
Ouais.
Tu sais,
ouais.
Aux pires niaiseries, puis tu peux t'enfermer là-dedans. Moi, c'est ça que je trouve décourageant pour le débat public actuellement. T'as plein de sujets qui, s'ils avaient été traités à l'époque des médias traditionnels, là, qui avaient bien des défauts, là. Je dis pas que c'était parfait, là. Mais il me semble qu'il y aurait eu des décisions puis des débats plus intelligents.
Bon, parfait, mais vraiment, Philippe Vincent, t'as parlé, là, je me suis dit, tu devrais te présenter à la chefferie du Parti conservateur. T'étais très, très convaincant. J'ai failli voter pour toi, là.
Je t'ai convaincu.
Non, 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 excuse-moi. Philippe Vincent, il reste à la radio, il est bon de même.
Okay? Ouais, okay.
Je t'ai convaincu de quoi?
De voter conservateur, d'être crinqué. Puis ça m'a amené au pouvoir.
Je vais te crinquer demain, si tu veux.
OK, parfait. Surprenant, Parti québécois, Antoine, parce que...
Oui. Ben, malgré des sondages de crotte, il réussit à attirer
pas de crotte,
des candidatures et de l'argent.
Pas crotte, hein?
Que t'as dit crotte.
Non, j'ai vraiment dit crotte, parce que c'est vrai que ça va très, très mal pour le Parti québécois. Puis ils ont perdu leur partiel malgré un très bon candidat. Hein. Donc, je parle de Marie-Victorin, évidemment. Mm. Alors, c'est ça. Dans Taschereau, ils ont réussi à aller chercher Jeanne Robin, qui est directrice principale de l'organisme Vivre en Ville. Ce qui est drôle, c'est que ça s'apparente pas mal à un candidat à l'investiture de Québec solidaire dans Taschereau, Étienne Grandmont, qui est une personnalité assez connue à Québec et qui, lui, va peut-être perdre, là, parce que Catherine Dorion a appuyé une femme qui s'oppose à Étienne Grandmont. Mais tout ça pour revenir au Parti québécois, je suis assez impressionné parce qu'il y a aussi, quand je dis qu'ils vont chercher des sous, là, il avait été déclassé par le Parti conservateur du Québec dans le dernier trimestre. Ben là, le PQ a recueilli 430 000 $ depuis janvier. Donc, ils sont devant le Parti conservateur du Québec et devant les autres partis, pas mal. Tu sais, le Parti libéral du Québec ferme la marche dans la liste à 168 000 $. Donc, c'est ça, je voulais souligner ça. C'est important d'avoir des personnalités. Je pense que pour un parti qui est comme en décrépitude comme ça dans les sondages, tiens, un Pascal Bérubé dans Matane, c'est une valeur sûre. Un Alexis Deschênes dans Bonaventure aussi. Est-ce qu'on peut répéter ça, par contre, dans 125 comtés? c'est difficile. Ça en prend plusieurs. Puis des fois, ben, à travers, il y a des coucous. C'est toujours difficile. Ça a été difficile, d'ailleurs, sur ce plan-là en 2018.
Bon, et il y a eu un sondage sur l'immigration.
Ouais, on en a beaucoup parlé. Moi, ce qui m'a marqué dans ce sondage-là, c'est à quel point le gouvernement est toujours en phase avec ce que nous disent les sondages. Et ça a été identifié, ça, dans un texte que j'ai épinglé, moi, un texte qui a été publié dans Le Devoir le 10 janvier 2022. C'est Olivier Jacques, c'est un jeune politologue, qui a décrit la CAQ comme l'électoralisme décomplexé. Et il fait la différence entre un électoralisme décomplexé qui veut suivre vraiment... Il est toujours au diapason de la majorité. Il veut suivre ce que la majorité veut. Mais c'est pas vraiment du populisme. Mais pas toujours, en tout cas. Et j'aimais bien sa distinction. Et en matière d'immigration, bon, certains, évidemment, vont dire c'est du populisme parce que c'est des gens d'ailleurs de Montréal qui, finalement, ont le plus peur des immigrants, là. Mais c'est une vraie question. Puis je pense que ça va être un des principaux enjeux de l'élection, l'immigration, encore une fois, cette année.
Philippe Vincent.
Moi, ce que je constate dans ce sondage-là aussi, c'est quand Christian Bourque l'analyse en disant les gens veulent le statu quo. Et ça, pour un gouvernement en place, il y a pas mal rien de meilleur que ça. Il y a pas mal rien de meilleur que Les affaires vont bien. Un peu plus, un peu moins. Les affaires vont bien. Après ça, je vous invite quand même à aller réécouter la chronique avec Yasmine Abdel-Fadel ce matin qui raconte c'est quoi l'immigration du point de vue d'une immigrante. Parce que tu sais, souvent, on en parle, 50 000, 70 000, 100 000.
La main-d'œuvre.
On est beaucoup dans ces grands thèmes-là en déshumanisant un peu l'expérience d'un immigrant ou d'une immigrante. Je pense que ça vaut la peine d'aller prendre la petite minute 30, d'aller la réécouter. Là, c'est disponible sur nos réseaux sociaux aussi. Juste pour voir, ça veut dire quoi, immigrer au Québec, c'est pas aussi facile que ça.
Humaniser la question.
Ils veulent pas des deux côtés menacer et détruire la société.
Je pense que des deux côtés, on déshumanise. Parce que, tu sais, quand on entend le conseil du patronat dire « rentrez-en 100 000 »,
Quand on parle d'eux comme un chiffre,
ou de la main-d'œuvre,
ou juste de la main-d'œuvre, tu te dis comme « attends, c'est des humains qui veulent avoir une vie comme nous autres, comme on l'a été, nous, immigrants. » Il n'est pas là. Allez réécouter ça, parce que
si c'était la solution magique, il n'y en aurait pas de pénurie de main-d'œuvre. Ça fait des années qu'on reçoit plus d'immigrants au prorata que les États-Unis et la France.
Ben oui.
Alors
non, mais c'est ça, puis de dépolitiser la question, juste de regarder de façon un peu humaine et mais aussi mathématique, puis tu sais, on se parlait de la pénurie de logement, ben ça affecte aussi les nouveaux arrivants, faut quand même les loger quand ils débarquent ici.
Ben c'est ça, puis les hôpitaux, puis il y a comme tout ça à prendre en compte, mais je pense que Yasmine fait juste nous faire un petit rappel que
c'est des êtres humains.
Il y a des gens derrière ça.
Absolument.
Voilà.
Moi, je dirais comme Yves Bolduc, c'est Yasmine qui décide.
Ah, Yasmine a raison.
Parfait. Monsieur Robitaille, Monsieur Foisy, merci. À demain.
Salut.